Donc, si vous voulez bien, je vais achever mon sujet d'hier sur les avantages que nous procure l'incarnation. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a voulu prendre notre nature humaine? Comment ça change tout dans notre religion? La religion du catholique, c'est vraiment Jésus-Christ. Les vérités ne sont plus celles de Dieu seulement, mais ces vérités qui nous sont mâchées, qui sont mises à notre portée, qui sont adaptées par un homme tel que nous, qui prend les mêmes moyens d'enseigner que les nôtres. Ouais. Ensuite, la religion, c'est les commandements, mais les devoirs que nous devons remplir prennent une toute autre allure s'il s'agit non pas de s'imposer un code de bonne conduite, mais de suivre quelqu'un, quelqu'un qui nous séduit, quelqu'un qui ne peut pas nous tromper et qui forcément nous conduit à la perfection et à la sainteté, parce qu'il est la sainteté même. Et puis enfin, comment la religion, c'est le culte à rendre à Dieu? Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui notre avocat, c'est lui notre médiateur. Nous ne pouvons pas faire, nous ne faisons aucune prière sans dire « Per Dominum Nostrum Iesum Christum ». Nous passons par lui. Notre prière ne peut pas être refusée de Dieu, parce que, justement, elle passe par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre médiateur. Donc, les moyens pour, non seulement la religion nous impose des vérités à croire et des commandements auxquels nous devons soumettre, mais la religion nous donne des moyens, nous donne des facilités, etc. Et c'est les sacrements. Le culte, c'est non seulement la prière qu'on adresse à Dieu, mais c'est aussi les sacrements qui nous sanctifient. Oui, on sent en nous toutes sortes de mauvaises inclinations, que ce soit à la vanité, à l'ambition, que ce soit à la sensualité, à la gourmandise, à l'impureté, ou bien la cupidité, l'avidité. On sent en nous sans cesse ce désir. Eh bien, les sacrements émoussent en nous. Diminue en nous, sans complètement, il y a toujours une nécessité de lutte, bien entendu. Mais les sacrements ont ce pouvoir merveilleux par la grâce. Ouais. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous transforme. Et pour nous, prêtres, c'est ce qu'il y a de plus beau, que lorsqu'on est au confessionnal, comment on voit les âmes, eh bien, se transformer, évoluer, et vraiment, des fois, on touche du doigt. Ouais, l'efficacité de la puissance de Dieu dans quelques âmes qui étaient plongées dans le péché, invétérées dans le mal, dans une ornière épouvantable, et puis qui petit à petit se relèvent, se redressent. D'ordinaire, ça demande du temps, ouais, c'est bien rare, à moins d'un miracle. Bien souvent, nous avons une sorte d'impatience à vouloir que d'une confession à l'autre, ça demande du temps. Ouais. Mais pour nous, c'est prodigieux d'être spectateur de cette efficacité de la grâce dans les âmes. Un prêtre ne peut pas douter de la grâce de Dieu quand il en est le témoin à travers les âmes qui se confient à lui. C'est vraiment extraordinaire et très réjouissant de voir cela. Ouais. Et bien, d'une certaine manière, vous voyez, cette grâce que nous recevons par les sacrements, nous devons aussi la transmettre. Ouais. Par notre prière, en faisant prier, en apprenant à prier. Et ça, c'est vraiment à vous. Ouais, souvent, si une mère de famille, une maîtresse d'école n'apprend pas la prière à un enfant, souvent, nous prêtres, quand on a des petits-enfants, etc., bon, il y en a qui ont ce don extraordinaire, mais d'autres, on a l'impression que c'est comme une poule avec un couteau. Hein, on ne sait pas comment il faut leur parler, etc. Mais vous avez ce don, ça, c'est inné en vous. Ouais, donc, apprendre à faire prier, ben c'est ça, c'est l'œuvre d'une, c'est le cœur d'une mère, c'est le cœur d'une jeune fille, etc. C'est très, bien sûr. Et puis, notre Seigneur Jésus-Christ, il ne s'est pas contenté de prier. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est offert en victime. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu être immolé par amour pour nous. Ouais, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est non seulement celui qui nous enseigne la vérité, non seulement celui qui nous commande, qui nous donne ses ordres, mais c'est quelqu'un qui offre sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà. Vous savez que tout ce que Dieu a dit aux hommes, toute la vérité que Dieu a dit aux hommes, s'est concentrée dans ce livre qu'on appelle la Bible, qui s'appelle aussi le Testament. Pourquoi ce mot testament? Vous voyez, quand on parle à quelqu'un et qu'on se rend compte que cette personne doute un peu, on garantit notre parole par une promesse, par un serment. Je te jure, je prends Dieu à témoin que ce que je te dis est vrai. Donc vous voyez, c'est le serment, c'est affirmer l'authenticité de notre parole par un engagement, le serment. Le testament, c'est encore plus. Le testament, c'est garantir une parole, oui, par notre vie et par notre mort. Oui. Nos parents, lorsqu'ils nous quittent, eh bien, ils nous laissent leur testament, tout ce qu'ils ont de plus cher, qu'ils ont donné toute leur vie pour nous. Eh bien, pour nous, la parole de Dieu, elle s'appelle testament parce qu'elle est signée du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Après nous avoir enseigné la vérité, la plus belle, etc., il nous garantit que tout ce qu'il nous a dit, non seulement il ne peut pas nous tromper parce qu'il est Dieu, mais il est mort. Il est mort, il a donné sa vie pour nous garantir l'authenticité. Lorsque nous lisons la Bible, nous ne pouvons pas ne pas réfléchir. C'est quelqu'un qui est mort pour moi. Ouais. Ce qu'il me dit là, ouais, ce que je lis en ce moment, c'est quelqu'un qui est Dieu mais qui est mort pour moi. C'est ça l'incarnation. Ça donne une toute autre dimension, une toute autre valeur à l'évangile, de savoir que c'est vraiment signé avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par sa mort que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu authentifier sa parole. Ouais. Donc notre Seigneur Jésus-Christ sans cesse revient sur « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Voilà le grand désir de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu sur terre pour nous donner la vie divine, pour nous donner la vie d'enfant de Dieu. Sans notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes que des créatures, c'est-à-dire des esclaves vis-à-vis de Dieu. Avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes déifiés. Notre Seigneur Jésus-Christ est devenu homme pour nous faire Dieu, pour nous diviniser. Il s'est humanisé pour nous diviniser. Il a voulu se faire l'un d'entre nous pour que l'humanité entière participe à cette vie divine. Ouais. Donc c'est en cela que notre Seigneur... La religion, c'est ça, c'est se laisser diviniser. Ouais. Saint Jean nous dit, le fait que nous soyons enfants de Dieu, pour nous, ce n'est pas simplement une étiquette qui nous est collée, ce n'est pas simplement une dénomination, c'est une réalité. En notre Seigneur Jésus-Christ, il y a vraiment cette vie divine qui est en nous. Alors ça change tout, évidemment, cette vie qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit et vit en moi, il possède déjà la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ça la religion essentiellement. Ce n'est pas simplement une intelligence, une tête bien remplie avec des vérités, avec des dogmes intangibles, etc. Avec des commandements que je tiens comme un stoïcien. Non, c'est beaucoup plus. C'est ça sans doute la religion, mais c'est une vie. Vie avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, Miki vivere Christus est, dit saint Paul. Pour moi, vivre, c'est le Christ. C'est tout. Ouais, ça se dit, c'est des paroles qu'ils voudraient inscrire sur vos murs, dans votre chambre, etc. Les moines faisaient ça dans leur réfectoire, etc. Il y en avait qui n'étaient pas très engageants, par exemple, pour les inciter aux jeunes. L'estomac desséché par le jeûne produit les larmes de la pénitence. Alors, en mettant à table, ça vous... Ah, mais il y en a d'autres, heureusement. Ouais. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, « Je suis le pain descendu du ciel. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » C'est magnifique. Ce qu'a vécu une mère, c'est inouï, c'est ineffable d'avoir pendant 9 mois une vie qui vient d'elle, une vie qu'elle nourrit, une vie qu'elle entretient. Ça dure 9 mois, puis après, il faut te débrouiller tout ça, là. Fais ton truc. Eh bien, nous, c'est pas ça. Nous, c'est toute notre vie sur terre où nous sommes vraiment en notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre vie, c'est par lui que nous vivons. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a cette intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Je suis la résurrection et la vie. Oui. Celui qui croit en moi possède la vie éternelle. Oui. à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne cette vie divine. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Quelle belle image! Quand vous voyez un cep de vigne et puis les branches, c'est la même sève qui circule de l'un à l'autre, impossible. C'est évidemment, si on se coupe, alors le sarment, la branche, n'est plus, se dessèche et il faut la brûler. C'est ce qui nous arrive malheureusement par le péché. Mais tant que nous sommes en état de grâce, mais on n'a rien à faire, ça vient tout seul, nous sommes des branches. Hein, c'est le cep qui doit envoyer la pression, etc. Il suffit de se laisser faire. C'est merveilleux. Saint Paul prend l'exemple du corps. Notre Seigneur Jésus-Christ est la tête. Nous sommes les membres. Ouais, est-ce que le pouce, les doigts, ça se préoccupe? Est-ce que la pompe va continuer les poumons, etc. Tout ça, ça marche. C'est une usine qui tourne, etc. Eh bien, nous, c'est ça, la vie divine. On n'a pas à s'inquiéter. Notre Seigneur Jésus-Christ est là. Donc, vous voyez que tout cela, bien sûr, sans l'incarnation, le bon Dieu aurait pu le faire, mais que le fait que notre Seigneur Jésus-Christ soit un homme comme nous, toutes ces réalités prennent vraiment une influence, un rôle, une place dans notre vie vraiment ineffable. Alors, je pense que par votre mission de mère de famille, de maîtresse d'école, d'infirmière, etc., eh bien, cette vie divine, vous avez à la transmettre. Notre Seigneur Jésus-Christ dit à ses apôtres, faites ceci en mémoire de moi. Ce saint sacrifice qu'il a célébré, sa première messe, Notre Seigneur Jésus-Christ le jeudi saint, il demande aux prêtres, il leur donne vraiment le pouvoir de continuer son sacrifice. Eh bien, une mère de famille, une maîtresse d'école, une infirmière, c'est vraiment cela, d'une certaine manière. En se dévouant, en s'offrant, en se sacrifiant au service des malades, des enfants, etc., c'est une manière de reproduire notre Seigneur Jésus-Christ, de continuer dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un véritable sacerdoce, un véritable sacerdoce. Voilà la dignité de notre vie. Ouais. Alors, je voudrais passer à un autre sujet maintenant. C'est la grâce. Justement, nous venons de voir que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est non seulement sa vérité, c'est non seulement ses commandements, mais notre Seigneur Jésus-Christ, c'est sa grâce, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je ne vais pas reprendre, je pense que vous avez suffisamment de catéchisme pour faire cette différence entre la grâce sanctifiante, la grâce habituelle, et la grâce actuelle. Moi, je vais vous parler de la grâce actuelle. La grâce sanctifiante, dont je ne vais pas vous parler, la grâce habituelle, c'est celle qui nous fait enfants de Dieu. Vous voyez, un enfant qui vient d'être baptisé, eh bien, il reçoit la grâce habituelle. Elle l'habite, cette grâce. Elle fait d'elle l'enfant de Dieu. La grâce actuelle, donc c'est cela dont je vais vous entretenir maintenant. Qu'est-ce que c'est que la grâce actuelle ? C'est qu'il ne suffit pas d'être chrétien, d'être disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas simplement que notre nature soit transformée. Il faut que nos actes aussi soient conformes. Vous voyez, lorsque vous avez un enfant, vous n'êtes pas au-dessus du berceau en disant « pourvu qu'il vive, pour moi ça suffit ». Ben non, vous n'avez qu'une envie, c'est qu'il saute du berceau et qu'il commence à jouer, qu'il commence à apprendre, etc., et qu'il pose des actes. Ça ne vous suffit pas qu'il soit en vie. Si vous le laissez indéfiniment dans le berceau, mais ça va faire un infirme. Il faut qu'il bouge. Il faut qu'il pose des actes. Donc, vous voyez que la grâce sanctifiante, c'est ce qui nous fait vivre comme enfants de Dieu. Nous avons vraiment cette vie divine. Et la grâce actuelle, sans cesse, va nous solliciter à poser des actes. Des actes qui nous améliorent, qui nous font grandir, qui nous épanouissent. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez, quand vous dites acte d'espérance, mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance, parce que vous l'avez promis, que vous êtes fidèle à vos promesses, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez votre grâce en ce monde. C'est ça, c'est la grâce actuelle. Lorsque nous disons, lorsque vous allez faire l'acte, votre acte de contrition, mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce. C'est ça. Ouais. Oui, ne vous inquiétez pas trop pour votre confession du passé. Moi, j'ai jamais entendu dire qu'on fasse une mauvaise confession en retraite. Ça n'existe pas. À part ceux qui partent en retraite, qui sont découragés, etc. Mais ceux qui font une retraite convenablement, ils ne peuvent pas faire une mauvaise confession. Ça n'existe pas. Dans une retraite, on est tellement conditionné par cette atmosphère de silence, de recueillement, de réflexion, etc., qu'on ne peut pas avoir l'idée d'aller se confesser en cachant volontairement quelque chose. C'est ça, la confession sacrilège, c'est une mauvaise confession. Donc, mais vous voyez que dans la confession, il y a deux parties dans la confession. Il y a le passé, mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Ça, c'est le passé. Je prends la ferme résolution, le futur. Vous êtes là en retraite pour le futur. Ne vous inquiétez pas du passé. C'est déjà une tranche. Mais le futur, je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce. Voilà. Bien souvent, après les retraites, alors on sent une montée en puissance, en ferveur pendant la retraite. Puis, après la retraite. Il n'y a plus rien. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'appuie pas suffisamment sur la grâce. Avec le secours de votre sainte grâce, je prends la ferme résolution d'éviter les occasions et de faire pénitence. Hein. Voilà. Donc, la confession, c'est ça. La confession, c'est cette douleur d'avoir offensé Dieu, mais c'est le ferme propos pour l'avenir. Le véritable désir de m'améliorer, de me transformer, etc. C'est surtout cela qui compte. Votre retraite, faites-la dans cette perspective du futur. Ouais. Avec le secours de votre sainte grâce. Ouais. Et vous voyez bien que si vous n'avez pas fait votre confession encore par rapport au passé, vous voyez que ce qui nous touche dans la confession, le motif principal dans la contrition, c'est l'amour. J'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable. C'est ça surtout. Vous voyez, dans la confession, il s'agit de rendre notre cœur au bon Dieu. C'est l'essentiel de la confession. Rendre notre cœur à Dieu. Qu'est-ce que saint Thomas définit le péché? Qu'est-ce que c'est que le péché? C'est de détourner de Dieu pour se tourner vers la créature. Essentiellement, c'est ça le péché. Cet amour que je dois à Dieu, eh bien, je l'applique aux créatures indépendamment de Dieu, ouais, contre la volonté de Dieu. C'est ça. Donc, la contrition, c'est l'inverse. Je me détourne des créatures, non pas qu'il faille haïr votre mari, ou ça, etc. Je me détourne des créatures pour me tourner vers Dieu. Je rends mon cœur à Dieu. Et c'est merveilleux de voir comment dans l'évangile, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il convertit un pécheur, il ne va pas, si vous voulez, insister indéfiniment sur le passé. Ça se fait d'une manière immédiate. Dès lors que le cœur vraiment est changé, notre Seigneur Jésus-Christ nous demanderait. Je vous ai évoqué tout à l'heure à la chapelle Zachée. Ouais, Zachée, c'est un grand pécheur, c'est un publicain. Un publicain, c'est-à-dire, et les publicains, c'était ces juifs, si vous voulez, qui n'en avaient rien à faire de la religion. Pour eux, c'était le fric, hein, que tout. Donc, publicain, il se mettait au service des occupants, les Romains, pour tirer les impôts. Alors, ils étaient haïs des juifs, évidemment, hein, puisqu'ils leur tiraient leur fric. Hein, et qu'en plus, ils étaient en connivence avec l'occupant, avec l'homme. Donc, c'était un pécheur, un grand pécheur. Mais quand notre Seigneur Jésus-Christ lui dit, il faut qu'aujourd'hui je demeure chez toi. Ouais. Il ne regarde pas en arrière en disant, vous êtes trompé, hein, je crois que là, ça ne veut pas être moi. Non, il est tout content. Il pensait simplement se rincer l'œil en regardant notre Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup plus, ouais, il dégringole de l'arbre, ouais, en recevant notre Seigneur Jésus-Christ. Et du coup, il invite tous ses amis, etc. Venez, on va faire la fête. Hein, on reçoit. Et qu'est-ce que nous dit l'Évangile? C'est que tous les gens pleins de piété, etc., ils étaient scandalisés. En disant, comment c'est le Messie hein, qui va manger chez un pêcheur avec toute cette racaille, etc. Eh bien oui, il est venu pour ça. Et n'imaginez pas que notre Seigneur Jésus-Christ, en allant chez Zachée, il lui dit, on n'a pas quand même un petit coin tranquille, là, où tu pourrais faire ta confession générale. Pas longtemps, hein. Mais non. Non, non, notre Seigneur Jésus-Christ, il est là à table, il mange convenablement, comme vous l'avez fait ce matin, hein, sans se gêner. Hein. Et notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas là, disons, franchement, où je suis tombé. Mais pas du tout. Il parle gentiment à ces gens-là, etc. Mais Zachée comprend bien. Il dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il faut qu'aujourd'hui je demeure chez toi. Il ne vient pas en visiteur, notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne vient pas simplement comme ça. Non, il faut qu'il demeure chez moi. Et tout en mangeant, en se réjouissant, Zachée se dit bien, il faut que je fasse un choix. Je ne peux pas en même temps être avec cet homme-là et en même temps rester attaché à l'argent. Il faut que je fasse un choix. Je dois faire rupture avec cet attachement à l'argent. Et de lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ ne lui a rien demandé. Il se lève de table et fait cette déclaration. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, j'en rends 4 fois plus. Ah, il y en a qui ont enregistré, t'as bien vu. 4 fois plus, hein, d'accord. Et pourquoi Zachée le fait en public? Parce qu'il se dit, attention, j'ai un bon sentiment là en ce moment, ouais, de me détacher de l'argent, mais je sens que ça ne va pas durer. Donc il faut que tout le monde le sache. Qu'on puisse ensuite me dire, dis donc, hein, en public, t'as dit, etc. Et il fait cet engagement. Ça, c'est merveilleux. Notre Seigneur Jésus-Christ ne lui a rien demandé. Ouais. Mais de lui-même, il a compris. S'il veut rester en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, s'il veut vraiment avoir joué, eh bien, il faut faire un choix. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire, nous, en allant communier. En allant communier, nous avons tous, soit comme Zachée, l'attachement de l'argent, soit... Ça peut être de l'orgueil, ça peut être de la sensualité, etc. Nous avons tous, chaque fois que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi », il nous le dit chaque jour, il nous dit à chaque heure. Nous ne pouvons pas, nul ne peut être attaché à 2 mètres. Ouais. Et Zachée, c'est de lui-même. Et notre Seigneur Jésus-Christ, mais imaginez qu'il fait un bond sur la chaise. En entendant Zachée, notre Seigneur Jésus-Christ dit à Zachée, bon, c'est très bien ce que tu. Mais je reviendrai dans quelques jours voir si tout ce que tu as dit, tu le mets en pratique. Mais non, il ne dit pas ça, hein? Notre Seigneur Jésus-Christ, à son tour, se lève. Aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Oui, le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Cette joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça aussi. Et c'est l'incarnation, c'est le fruit de l'incarnation. On sait bien que le bon Dieu se réjouit. Mais de lire cela dans l'Évangile, cette joie de notre Seigneur Jésus-Christ, ce bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous allez vous confesser, il faudrait que le prêtre, vous le sentiez un peu rebondir dans ce... Il est là, vous entend d'une manière un peu... Mais c'est Jésus qui vous écoute. Ouais. Et quand il faudrait que vous l'entendiez. Aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Et chaque fois que vous avez des conversions dans l'Évangile, c'est comme ça. Regardez le bon larron. Ouais. Le bon larron qui dit « Ah, je suis une fripouille, ah, je suis une saleté, vous avez bien fait de me crucifier. Il fallait me neutraliser, cette fois-ci, vous avez pris les bons moyens. » Mais lui, quel mal a-t-il fait? Vous êtes des assassins. Quel mal a-t-il fait, lui? Il rend témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est beau. Et il ose dire, une audace, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Quelle audace! Il vient de dire que c'est vraiment un voleur, un bandit, un malfaiteur, mais il est incohérent, il est illogique. Il demande en même temps à participer au bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ ne lui répond pas, ah ben écoute, c'est vrai que tu es un peu excusable, tu as eu peu d'heures de catéchisme, et tu sais qu'avant que le ciel, il y a le purgatoire. Et pour toi, il va être salément. Mais il ne lui dit pas ça. Ouais. Aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. Ben c'est ça, en allant vous confesser, il faut avoir cette conviction. Notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas quelqu'un qui vous donne des délais, quelqu'un qui... C'est tout de suite. Si vous êtes bien disposé, si vous faites une bonne confession, c'est tout de suite, c'est merveilleux. C'est ça la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Alors on va voir justement un bel exemple vraiment de cette conversion de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous avez à parler, voyez, à des personnes qui sont dans le découragement, qui sont dans le mal et qui n'osent pas faire la démarche. Il faut plonger dans l'évangile, il faut prendre des exemples de l'évangile. Alors moi, je vais vous parler de la Samaritaine. Un exemple de la grâce merveilleuse, ouais, c'est la Samaritaine. Vous avez ça dans vos missels. Dans vos missels, c'est Saint Jean chapitre 4. Et dans vos missels, c'est le vendredi de la troisième semaine de Carême. Il me semble que c'est une illustration merveilleuse de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ nous donne sa grâce en ce monde, comment ça se passe? Comment notre Seigneur Jésus-Christ pénètre dans notre âme et la transforme? Eh bien, vous avez un exemple merveilleux. Dans l'exemple de la Samaritaine. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas opéré les conversions toutes de la même manière. Étant donné qu'il est Dieu, il peut opérer d'une manière entièrement libre. Donc notre Seigneur Jésus-Christ peut très bien, d'un moment à l'autre, convertir quelqu'un. Mais quelquefois, il suit une démarche, disons, plus ordinaire. Pour convertir une âme, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le cas de la Samaritaine, il va y avoir toute une progression, toute une évolution. De même, quand notre Seigneur Jésus-Christ ressuscite un mort, il peut très bien ressusciter un mort, comme il l'a fait pour le fils aîné de la veuve de Naïm, et bien simplement en disant « lève-toi ». Mais pour la résurrection de Lazare, c'est une résurrection qui a été anticipée par les prières de ses sœurs, etc. Il y a eu tout un déroulement dans la résurrection de Lazare, qui n'existe pas dans d'autres cas. Alors, ce qui est vraiment frappant dans l'exemple de la Samaritaine, c'est comment notre Seigneur Jésus-Christ s'y prend. Oui, on dit de la sagesse de Dieu, c'est pas la grâce, c'est la sagesse de Dieu, qu'elle accomplit tout avec douceur et avec force. Ouais. Eh bien, on peut appliquer cette parole, ouais, qui est propre à la sagesse de Dieu, à sa grâce. La grâce, c'est l'instrument de la sagesse de Dieu. Dieu, qui est infiniment sage et qui gouverne toutes choses, avec force et sagesse, eh bien, il utilise sa grâce, cet instrument, ouais, par lequel il va justement faire preuve de cette douceur et cette force. C'est très difficile, dans l'agir, d'être à la fois doux, ouais, et être à la fois fort. Oui, quelqu'un qui est doux, qui est gentil, etc., eh bien, quand il va falloir aller au créneau, il risque bien d'être faible. Ouais, il ne suffit pas d'être gentil, bienveillant, etc. Il faut avoir un peu, hein, du mordant et puis savoir. Hein. Donc c'est difficile d'être à la fois celui qui est fort, hein, quelqu'un qui est efficace, etc. Bah oui, mais il envoie les gens balader, il faut voir. Hein, sans doute il réussit, mais alors il y en a pas mal qui sont piétinés partout. Hein. Ouais. Donc la force, bien souvent. Mais les deux, ben, c'est le propre du bon Dieu, ça. Ouais. D'être à la fois doux et fort, efficace. Et on le voit dans l'exemple de la Samaritaine. Alors, comment notre Seigneur Jésus-Christ, je vais vous lire d'abord, je vous lis si vous voulez ce texte merveilleux. En ce temps-là, Jésus vint dans une ville de Samarie nommée Sychar, près de l'héritage que Jacob donna à Joseph son fils, là était le puits de Jacob. Ainsi, Jésus, fatigué de la route, s'assit sur le bord du puits. Ouais. C'est pas par hasard, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la première preuve de cette... Il va être là et il attend la pécheresse, il attend cette âme qui est perdue. Ouais. On dit que notre Seigneur Jésus-Christ était fatigué, il est là d'attendre. Ouais, c'est pas rien. Je pense qu'une mère de famille qui a un enfant qui se conduit mal, une maîtresse dans une école qui a un enfant qui est en difficulté, qui fait toujours les choses de travers, quoi qu'il entreprenne, ça va toujours au fiasco. Ouais. Il faut attendre. Et c'est usant. Il y a une véritable fatigue, une véritable usure. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ainsi qu'il traite avec les âmes. Notre Seigneur Jésus-Christ nous attend. Commençons notre examen de conscience de cette manière-là. Peut-être pour certains d'entre nous, c'est des années que le bon Dieu nous a attendus. Il aurait pu nous, nous violenter, nous brutaliser, etc. Il nous a attendus jusqu'à cette retraite, peut-être pour certains d'entre vous. La patience de Dieu, l'attente de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est attentif. Ouais. Notre Seigneur Jésus-Christ est fatigué et il est assis. Ouais, il est patient. Lorsque nous, nous sommes dans l'attente, ben, tout le monde le remarque, hein, parce que nous sommes attendus, etc. Oui, il nous attend, mais attention, il y a le rouleau à pâtisserie derrière la... Eh bien non, le bon Dieu, il est patient. Il est patient. En même temps, il souffre cela avec bonne humeur. Il attend cette femme. Ouais. Ensuite, cette attente de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une attente purement passive. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans cette attente, il a provoqué l'occasion, la bonne occasion de cette femme. Vous voyez, il ne va pas la convoquer, il va pas la surprendre, etc. Notre Seigneur Jésus-Christ fait en sorte d'être seul avec cette femme. C'est très rare. Vous voyez, pendant les 3 ans de vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, il est toujours accompagné de ses apôtres. C'est vraiment exceptionnel. Comment se fait-il que notre Seigneur Jésus-Christ soit seul ? Ouais, l'évangile le dit, hein, on le verra tout à l'heure. Eh bien, parce que cette femme, elle est pécheresse. Elle aura besoin de se confesser. Elle a besoin de mettre ordre à sa conscience. Et notre Seigneur Jésus-Christ ne veut pas l'humilier en public. Il veut faire en sorte que cet aveu qu'elle aura à faire de son péché, elle le fasse dans la solitude. Ouais. Et ça, c'est la bonté. Vous voyez que notre Seigneur Jésus-Christ nous a imposé de nous confesser à un homme. Mais franchement, il y met quand même bien des précautions. Hein. On va d'abord dans une boîte noire. Hein. On est derrière des rideaux. Hein. On fait en sorte qu'il y ait l'obscurité, l'anonymat complet, etc. Puis attention, l'Église menace le prêtre. Hein, s'il divulge le moindre truc, hein, il est réduit à néant, etc. Il ne reste plus rien du prêtre. Ouais. La justice humaine, c'est autre chose. Si vous avez assisté à un procès, attention, hein, c'est le déballage. Hein. Et puis ensuite, vous avez votre portrait dans le journal, etc. On en rajoute. Ouais. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas comme ça. Sans doute, il nous demande cette véritable humilité de confesser notre péché. Mais combien de ménagements. Il fait en sorte que cette femme soit seule avec lui. Sans doute, il est dans un lieu, hein, où tout le monde peut les voir. Ouais. Mais c'est ça la grâce de Dieu. Combien elle nous ménage des occasions, combien elle nous facilite nos devoirs les plus difficiles. Ouais. Et puis cette femme, si vous voulez, c'est spontanément, elle va venir à notre Seigneur Jésus-Christ. Il utilise une circonstance. Elle va venir au puits parce que justement elle a besoin de prendre de l'eau dans ce puits. Ouais. Mais ça, tout ça, notre Seigneur Jésus-Christ l'a organisé. Il est Dieu. C'est ça l'attente. L'attente, ce n'est pas simplement le hasard qui va nous... C'est déjà aménager les circonstances, c'est prévoir, faire en sorte, ouais, d'être seul, etc., que cette femme vienne spontanément. Ouais. Eh bien, c'est ce qu'il faut nous dire, nous aussi. Ouais, que rien n'arrive au hasard. Vous voyez, dans la liturgie de l'Église, au temps de l'Avent, au temps du Carême, il y a ces expressions... Ouais, tempore accepto exaudivité, au temps favorable je t'ai exaucé. Rien n'arrive, chère retraitante, rien n'arrive par hasard. Tout c'est ce que produit. Même lorsque c'est moi qui fais le mal, même, etc. Le bon Dieu utilise tout en ma faveur, ouais, d'une manière bienveillante. Il arrange tout. In die salutis exaudivité. Il y a des jours de salut. D'une certaine manière. C'est ça qui doit nous toucher profondément. En faisant un peu l'histoire de notre expérience, de notre vécu, etc., en revenant un petit peu sur le film de notre vie, après coup, on se rend compte qu'effectivement, il y a eu telle circonstance, telle rencontre, telle lecture, telle conversation, tout cela a joué dans ma vie. Là, la providence a tout utilisé d'une manière vraiment maternelle. Ouais. Alors, ça aussi, vous voyez, il faut le retenir lorsque nous avons quelqu'un en difficulté. Ouais, bien souvent, lorsqu'on dit, ouais, les curés, ils ne cessent pas de nous dire qu'avec le sacrement de confirmation, nous devons être missionnaires, etc. Mais ouais, une fois qu'on est à l'ouvrage, c'est pas facile. Ouais. Et bien souvent, nos échecs viennent de là. C'est qu'on voudrait que, hein, dès qu'on a commencé à ouvrir la bouche, tout le monde soit là. Oh, s'il a bien parlé, etc. Ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez que notre Seigneur Jésus-Christ, il y va, mais prudemment. Hein, et on va voir que malgré cette vigilance, ces précautions qu'il prend, etc., ça ne va pas si bien se passer que ça au départ. Ouais. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, hein, après avoir fait preuve de cette patience bienveillante, etc., de choisir l'occasion, c'est aussi ça, il prend l'initiative. Retenez cela. Oui, lorsque vous avez un malade, c'est, bien sûr, vous avez des malades qui viennent spontanément vous dire, voilà, j'ai mal ici, j'ai mal là, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Mais d'ordinaire, ce n'est pas vraiment ça. Le malade, c'est quelqu'un qui a honte, quelqu'un qui souffre. Et c'est le médecin qui va être obligé, d'une certaine manière, d'aller à lui. Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parle d'une brebis perdue, ce n'est pas la brebis qui va se dégager puis revenir toute saignante à lui. C'est lui qui va devoir aller dans les, hein, dans les ronces, etc., et puis la dégager. Retenez cela. Dans l'apostolat, on croit que c'est, il faut attendre que les gens viennent à nous. Mais ça se passe pratiquement jamais comme ça. Il faut aller aux gens. Et ça, c'est difficile, surtout si on est timide, si on est impressionnable, etc. Il faut aller au charbon. Notre Seigneur Jésus-Christ, il attend, mais on ne peut pas attendre indéfiniment. Il arrive un moment où il faut se décider. Faut prendre l'initiative. Ouais. Et quelle initiative prend notre Seigneur Jésus-Christ? Ouais. Il lit dans les cœurs, il pourrait dire cette femme, « Ah bah dis donc, ouais, t'en as mené une drôle de vie jusqu'à là, toi. Hein » ouais. Non, il ne s'y prend pas comme ça. Notre Seigneur Jésus-Christ, il se met en situation de dépendance, comme s'il avait besoin. Pour, vous voyez, combien psychologiquement, et c'est ce qu'il faut faire. Si on veut que quelqu'un reçoive ce qu'on veut lui donner, d'une certaine manière, il faut se mettre en état de recevoir de cette personne-là. Ouais. C'est toujours humiliant d'avoir à demander. Ouais. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ fait comme si c'était lui qui avait besoin de l'autre, cette femme. C'est elle qui a besoin de lui. Eh bien, voyez comment notre Seigneur Jésus-Christ s'y prend. Ouais. Et pourtant, il est Dieu. Il pourrait, lui, se permettre, eh bien, prétendre, puisqu'il est Dieu, hein, s'adresser aux personnes, et on n'a pas le droit de discuter, on n'a pas le droit... Eh bien, il ne fait pas comme ça. Il ne fait pas comme ça, notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous, lorsque nous nous adressons à quelqu'un qui est en difficulté, nous prenons ces précautions-là? Notre Seigneur Jésus-Christ demande. De même que Zachée, notre Seigneur Jésus-Christ veut que Zachée, il arrive justement à renoncer à l'argent. Il faut que Zachée donne la moitié de ses biens aux pauvres et qu'il rende ce qu'il a volé. Mais notre Seigneur Jésus-Christ ne commence jamais par là. Jamais par là. Si quelqu'un qui est dans le mal, vous commencez à pointer du doigt les désordres de sa vie, mais vous le rebutez, ça va jamais le convertir. C'est certainement pas cette manière-là qu'il faut prendre. Il est Dieu. Et comment il prend l'initiative? En demandant à voir. C'était difficile d'être plus humble, plus modeste. Ouais. Il faisait pas semblant. Il avait vraiment soif. Il était dans la nécessité. Ouais. Et qu'est-ce que je vous avais dit, que même en prenant ce genre de ménagement, ça se passe possible? Eh bien, c'est que la femme, hein, au lieu d'avoir de la pitié et dire, bah, effectivement, moi j'ai un seau, hein, vous n'en avez pas, je vois. Mais comment, hein? Moi, je suis samaritaine. Et toi, tu es juif, tu devrais savoir qu'on ne discute pas. Elle lui donne une leçon de savoir vivre. Bien. Ouais. Eh bien, ça se passe comme ça dans l'apostolat. Ne croyez pas que parce que vous avez été gentil, ça a bien débuté, etc. On va commencer à vous buter en touche. Eh bien, oui. Eh oui. Elle en profite de son avantage. Ouais. La samaritaine. Ouais. Et notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, se laisse humilier. Ouais. Et il lui répond, eh bien, je continue. Or, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donnez-moi à boire. Car, on sait dans l'évangile, car ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. Donc, c'était facile pour lui d'attendre que les disciples apportent. Cette femme, samaritaine, lui répondit donc, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Et l'évangile explique. Car les juifs n'ont point de commerce avec les samaritains. Jésus lui répondit et dit, « Si vous saviez le don de Dieu, et qui est celui qui vous dit, « Donnez-moi à boire », peut-être lui en eussiez-vous demandé vous-même, et vous aurait donné une eau vive. » Ouais. Évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ parle de la grâce, justement, donner de l'eau vive. Ouais. Alors, hein, la réponse de la Samaritaine, vraiment, ça tombe. Hein. Ouais. Elle n'a rien compris. Hein. La femme lui répondit, « Seigneur, vous n'avez pas même... » Elle utilise encore son avantage, moi j'ai un seau. Hein. Seigneur, tu n'as pas même avec quoi puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc de l'eau vive ? Ouais. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu, lui et ses enfants et ses troupeaux ? Ouais, elle continue, hein, elle donne la leçon, elle. Franchement. Hein. Ça aurait été facile pour lui de lui clouer le bec et dire, bon, allez, hein, on va commencer. Hein. Non. Jésus répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Au contraire, qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra une fontaine d'eau jaillissante jusque dans la vie éternelle. » Là encore, elle n'a rien compris. Il faut être patient. Hein. La femme lui dit, « Seigneur, donnez-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif, hein, et que je ne vienne plus puiser ici. » Mais c'est tout simple. Hein. Alors ça va changer, et alors on continue, ouais. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui dit, hein, « Appelez votre mari et venez ici. » Ouais. Donc vous voyez que notre Seigneur Jésus-Christ, il prend l'initiative. Ouais. Et c'est toujours comme ça. Il faut y penser, oui, que non seulement le bon Dieu nous attend, mais c'est toujours lui qui prend l'initiative. Lorsqu'on va se confesser, c'est jamais notre bonne volonté qui finalement a pris cette décision, a pris le dessus, etc. C'est pas vrai. Nul ne vient à moi si mon Père ne l'attire. Ouais. Il y a cette phrase magnifique dans l'Écriture sainte. « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'ai attiré à moi plein de miséricorde. » Il faut toujours y penser. C'est toujours le bon Dieu qui prend l'initiative. C'est ça la grâce de Dieu. Ouais. Quel que soit l'état où je me trouve, quelle que soit la situation dans laquelle je suis, c'est toujours le bon Dieu qui prend l'initiative. Ouais. Et on voit que notre Seigneur Jésus-Christ traite avec cette femme avec beaucoup de considération, beaucoup d'estime. Ouais. Il traite avec cette femme, je ne dis pas d'égal à égal, mais on n'a pas du tout l'impression que notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse à quelqu'un qui a perdu toute dignité, quelqu'un de complètement déchu. Ça, c'est très important. Ouais, quand on parle à quelqu'un, quand bien même il s'agirait de ces pauvres ivrognes qu'on voit sur le quai des gares avec leurs bagouze et puis leurs clébards, hein, on n'a jamais le droit de s'adresser à quelqu'un. Notre Seigneur Jésus-Christ, ça n'existe jamais, cela. Ouais. Alors, je me souviens d'un passage de Saint François de Sales où c'est une mère de famille, une épouse qui s'adresse à lui et elle a vraiment un mari, mais vraiment insupportable. C'est quelqu'un donc qui s'est complètement adonné à l'ivresse et qui la trompe vraiment. Et elle dit à Saint François de Sales, je ne peux même plus prononcer son prénom. Cet homme me donne tellement de dégoût que je ne peux même plus prononcer. Eh bien, Saint François de Sales dit, vous avez le devoir, vous êtes pour cet homme, certainement le moyen, le meilleur pour qu'il se convertisse. Donc vous avez le devoir de le reprendre. Surtout, ne vous faites pas complice. Vous devez lui faire des reproches, vous devez, etc. Mais toujours ajoutez-y des mots d'estime et de considération. C'est quand même toujours une âme créée à l'image de Dieu, et c'est une âme qui est sauvée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mettez-y toujours des paroles de considération et d'estime. Ouais. Cette âme, dans l'état où elle est, elle peut encore gagner son ciel. Elle peut être infiniment heureuse. Et notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour cette âme. Considérez-le. Donc, à la fois, reprenez cet homme montrez-lui combien son état est vraiment indigne, mais ajoutez-y toujours des mots d'estime. Et saint François de Sales dit, cette recommandation me paraît si importante que je la signerai de mon sang. Ouais. Lorsque vous allez au confessionnal, vous n'attendez pas que le confesseur vous fasse des compliments, vous fasse etc. Il se moque de moi, hein, je viens pour me confesser, etc. Mais vous n'attendez pas non plus que le prêtre vous incendie, ouais, vous ramasse, vous mette plus bas que terre. Il faut que vous sentiez dans le langage, le message du prêtre, de l'estime, de la considération, que le prêtre vous fasse comprendre que même si vous avez eu le malheur d'offenser Dieu, vous êtes capable tout à fait de vous ressaisir, de vous redresser et de devenir quelqu'un d'exemplaire. Ouais, et de devenir une étoile comme Sainte Marie-Madeleine, la plus grande, lorsque vous avez la liste des saints, etc. Évidemment, vous avez tous les hommes qui passent avant, ça, évidemment, hein, les apôtres, etc. Mais vous avez quand même les femmes. Et puis, les femmes, vous avez d'abord les vierges, vous avez les martyrs, évidemment. Alors, Sainte Marie-Madeleine, elle n'est ni l'une ni l'autre. Eh bien, dommage, elle est en tête de liste, avant les vierges, avant les martyrs. Voilà. Oui. Donc ça veut dire que même dans l'état le plus... Hein, notre Seigneur Jésus-Christ dit bien à ces pharisiens qui sont contents d'eux, etc. Hein, eh bien les publicains, ces pécheurs publics et les femmes de mauvaise vie vous précéderont dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous devons toujours avoir de l'estime et de la considération. Et c'est d'abord cela. Hein, quelqu'un qui est dans le mal, quelqu'un dans la difficulté, il doit voir dans celui qui l'approche... Non pas tellement le soulagement qu'il va lui apporter, l'argent ou la nourriture. Il a besoin de voir un œil qui le considère avec estime, à considération. Vous voyez que notre Seigneur Jésus-Christ traite de cette... Pourtant, quand même, elle était dans un état... Elle a eu 5 maris, c'est quand même un beau record. Hein. Franchement, hein, dans les exploits, c'est pas mal. Ouais. Eh bien, jamais on sent... Et c'est ça le début, Cette femme, c'est un élément déterminant de la conversion, se sentir estimé, considéré. Ça me donne la certitude que ce que je suis en ce moment et qui me dégoûte, que je veux désavouer, je peux en sortir, vraiment. Et ça, je le vois dans l'œil de celui qui me regarde. C'est d'abord ça, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui ne peut jamais nous regarder. C'est déjà l'heure, tu vois. Notre Seigneur Jésus-Christ, sa grâce, c'est aussi l'attrait. Vous voyez que c'est notre Seigneur Jésus-Christ, pour amener cette femme à la conversion, il va utiliser ce qu'elle a de bien en elle. Attention, vous voyez, nous sommes tous créatures du bon Dieu. Le bon Dieu ne crée pas des monstres. Tout ce que nous avons en nous, c'est bon. Le péché, bien souvent, c'est des qualités que nous avons déformées, que nous avons tordues. Mais le bon Dieu n'a pas créé des êtres en mettant un peu de poison, un peu d'ivraie, hein, pour que ces gens-là, un jour ou l'autre, puissent tomber dans le péché. Ça n'existe pas, ça. Nous sommes entièrement bons, évidemment. Donc, quelqu'un qui est tombé dans le péché, pour l'en sortir, il faut simplement utiliser ce qu'il a de bien et qui n'est jamais complètement détruit. Qu'est-ce qu'il y avait chez cette femme, ouais, que notre Seigneur Jésus, qu'elle avait gardé, même dans son péché, dans son éloignement? Elle était curieuse. Elle était curieuse, mais pas de cette curiosité purement féminine et mesquine. Elle avait vraiment une recherche de la vérité. Et c'est pas rare, ouais, de trouver ça chez les femmes. Bien souvent, on sous-estime, on minimise ses capacités. Mais eh bien, on en a la preuve, là. Cette femme-là se posait des problèmes métaphysiques. Est-ce que... il faut adorer Dieu. Hein. Alors pour nous, Samaritains, le culte à Dieu, c'est sur tel mont, et pour vous, chez les Juifs, c'est à Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'il faut croire? Est-ce que vous pourriez m'aider, etc. Elle est curieuse, et notre Seigneur Jésus-Christ utilise cela. Ouais. Ça, c'est très important. Lorsque je veux, retourner à Dieu, il ne s'agit pas de me plaquer un masque. Il s'agit de redécouvrir en moi ses potentialités. Le bon Dieu
qui m'a créé. Alors, vous qui êtes mère et mère de famille, ou qui pensez l'être un jour, ouais, eh bien, un enfant, c'est vraiment lui transmettre vos capacités, vos qualités, vos perfections, tout ce qu'il y a de richesse en vous. Eh bien, le bon Dieu nous a créé de cette manière-là, évidemment. Donc, le retour à Dieu, c'est vraiment retrouver en soi, ouais, ses capacités. Et on voit que Sainte Marie-Madeleine, par exemple, quelle était la qualité dominante chez la chair? C'est qu'elle était affectueuse. Elle avait vraiment un cœur qui avait cette puissance d'aimer incroyable. Son péché, c'est d'avoir mal orienté cette capacité d'amour, de l'avoir appliquée à des créatures périssables en faisant ses idoles. Notre Seigneur Jésus-Christ ne lui demande pas pour se convertir de devenir un bois sec, stérile, quelqu'un complètement desséché, etc. Mais non, il va réorienter cet amour. Ouais. Donc tous, retenons cela, ouais, que le bon Dieu, pour nous convertir, il utilise ses qualités. Nous avons tous de profondes qualités, de très grandes qualités. Ouais. Donc, lorsqu'on va à quelqu'un qui est dans la difficulté, dans le mal, ouais, il ne s'agit pas tant de voir le mal où il se trouve, il s'agit de voir aussi quels sont les points forts, quelles sont les qualités de cette âme. Vous voyez, le chirurgien, etc., bon, il va trancher dans lui, mais il y a quand même des parties qui sont saines, il va s'appuyer là-dessus pour il va enlever le mal, mais évidemment, avec les médicaments, etc., il va faire en sorte que tout ce qui reste de vie, de vitalité et de santé, tout ça reprenne là-dessus. Bien sûr. Et on voit comment notre Seigneur Jésus-Christ répond à cette femme. Il lui fait un véritable cours, un cours de théologie. C'est magnifique. En quelques... Bon, j'ai plus le temps de le faire, mais en quelques minutes, notre Seigneur Jésus-Christ dit à cette femme des choses qu'il n'a jamais dites ailleurs. Ouais. Notre Seigneur Jésus-Christ va parler du Père, par exemple. Il nous parle du mystère de la Sainte Trinité. Il révèle le mystère de la Sainte Trinité à cette femme. Ouais. Notre Seigneur Jésus-Christ. Bien souvent, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ parle du Messie, il en parle d'une manière voilée, sous forme de parabole. Pourquoi? Parce que les Juifs ont des dispositions tellement imparfaites que s'il s'était révélé comme le Messie, ouais, il l'aurait sans doute accueilli, mais d'une manière tout à fait impropre. Il fallait que ces gens-là, pendant des années, soient préparés vraiment à l'accueillir, et beaucoup ne l'ont pas recueilli. Donc notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit « Je suis le Messie ». C'est toujours par des paraboles, d'une manière voilée, cachée, qu'il se révèle comme le Messie. Parce que ces âmes ne sont pas capables de le saisir. Eh bien, pas la Samaritaine. À la Samaritaine, il lui dit, lorsqu'elle lui dit, la Samaritaine lui dit « Je sais que le Messie, quand il viendra, ouais, il nous révélera toutes choses. » Et notre Seigneur Jésus-Christ lui dit, et c'est la fin, « Je le suis, moi qui te parle, je suis le Messie. » Mais il a dit ça à la Samaritaine. Il m'a fait un cours extraordinaire. Lisez ce passage-là. Notre Seigneur Jésus-Christ montre à cette... Et justement parce qu'il utilise cette femme avec cette capacité de réflexion, de raisonnement, et capable de recevoir la foi, ouais, d'une manière exceptionnelle. Alors qu'elle était samaritaine, pas juive, alors qu'elle était pécheresse, qu'elle n'avait pas une âme disposée au départ. Mais notre Seigneur Jésus-Christ utilise cette... Et on est surpris de trouver des âmes qui sont profondément dans le mal et chez lesquelles il reste des capacités pour aller au bien extraordinaires que n'a pas, peut-être, ouais, une âme qui est restée innocente, qui a toujours vécu dans la... Voilà pourquoi nous ne devons jamais mépriser, sous-estimer un pécheur. Le bon Dieu cache peut-être sous cette chape de péché et de mal un véritable trésor. Et la Samaritaine, c'est ça. Moi, je me souviens du Père Spic. J'ai eu le bonheur d'avoir le Père Spic, un grand exégète. Et quand il nous parlait de cet évangile, il était enthousiaste. Il nous disait, voilà une femme qui a du pneuma, du souffle. Incroyable. Notre Seigneur Jésus-Christ montre bien qu'il y a des qualités naturelles, ouais, qu'il faut savoir utiliser. C'est ça. Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il veut convertir cette femme, il n'impose rien. Il fait désirer. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais celui qui te parle, alors tu demanderais. Et lui, il te donnerait le vrai bonheur. Cette femme qui a été certainement abusée, qui a été trompée par les hommes, là, elle se rend compte tout de suite qu'elle a affaire à quelqu'un qui l'aime pour elle-même, qui l'aime d'une manière détachée et pour son bien à elle. C'est ça qui la frappe. Elle le sent immédiatement. Elle a cette intuition, bien sûr. Ouais. Eh bien, voilà comment notre Seigneur, c'est la grâce de notre